L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La persévérance ». C'est notre 12e émission et nous recevons encore une fois Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour.
Que Dieu te bénisse encore et encore, qu'il te rende au centuple ce que tu es en train de nous donner.
Amen.
Avant d'aller plus loin, frère, je voudrais que tu pries pour nous pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur.
Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Car tu nous donnes de déposer en nous ce qui est merveilleux, ce qui est utile pour notre avenir. Bénis ces instants, accompagne ce temps où nous allons partager avec ceux qui nous suivent, et glorifie ton nom, ta parole en ces instants. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen.
Amen. La persévérance. Jonathan, dans l'émission précédente, nous parlions de Matthieu 8. L'histoire du centenier romain, qui avait besoin juste d'une chose, d'une parole que Dieu lui donnerait au travers de la personne de Jésus-Christ. Il dit, verset 8, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Juste une parole, parce que moi je suis soumis à des soldats et j'ai moi-même des supérieurs. Quand je dis à l'un « fais », il fait. Quand je dis à l'un « va », il va. En fait, ce monsieur nous démontre qu'il avait une grande foi. Et Jésus confirme en disant « je n'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. » Un homme qui est convaincu, malgré les circonstances, malgré ce que les gens disent de moi, il est convaincu que si je prononce une parole, son serviteur sera guéri. Et tu sais quoi ? Quand tu lis l'histoire, tu continues, le monsieur, dans d'autres évangiles, il nous a dit que le monsieur est rentré à la maison le lendemain. Et on lui a dit que son serviteur était guéri. Et il posera la question, quand ? On lui dira à tel moment. Et il se souviendra, c'est en ce moment-là que Jésus va parler.
C'est ça.
Donc lui, il va même pas rentrer à la maison pour vérifier. Il va continuer son travail. Parce qu'il sait que ce que Jésus a dit
est vrai. S'accomplira.
Il devait certainement rencontrer des circonstances contraires. Peut-être que des collègues à lui lui ont dit, mais écoute, tu as laissé ton serviteur, tu as laissé ton fils à la maison malade. Il dit non, Jésus a parlé. Il persévérait dans la confiance en Jésus-Christ.
Les circonstances, Jésus était avec les apôtres, dans la barque, mais cela n'a pas empêché la présence du vent. C'est-à-dire, les circonstances viendront nous trouver.
Même si Jésus-Christ est dans notre vie de tous les jours.
Oui, dans le chemin, alors que nous avançons, il viendra, les circonstances. Mais nos yeux doivent être braqués sur Jésus. Sur Jésus. Jésus, c'est quand on parle de Jésus, on ne voudrait pas faire allusion à ces hommes qui tournent des films. Vous verrez des gens, ils prennent l'image d'un homme qui s'appellerait Jésus. Il a tourné le film de Jésus, il avait une belle image, on prend son portrait, on le met devant la maison, ou bien à côté de son lit, et on voit Jésus, on dit à Jésus, mais voilà, non, Jésus c'est pas celui-là.
Ou bien même une certaine photo qu'on prétendrait, non, il avait eu une apparition, il était apparu à tel endroit, on l'a pris en photo, non, c'est pas ça.
Jésus c'est la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes, cette parole. Elle était pleine de grâce. Elle a fait des miracles. Jésus, c'est la parole. Cette Bible-là que tu as, cette Bible-là, c'est Dieu lui-même. Donc, fais confiance seulement à cette parole, c'est suffisant. Même si tu ne vois rien, même si les circonstances viennent te trouver, mets confiance en cette parole. Plus nous écoutons la parole, plus la parole de Dieu abonde en nous, eh bien, face aux circonstances, il y a des solutions qui jaillissent dans nos cœurs, qui viennent nous dire non, fais ceci. Non, ne crois pas, ça avance. Parce que la parole de Dieu a toujours des pistes de solutions. Elle nous donne toujours des pistes de solutions, même si on ne voit pas. Aux Éphésiens chapitre 1er, Paul, dans sa prière, disait ceci. Il priait pour les Éphésiens. Regardez ce qu'il disait. Si vous avez vos Bibles, rejoignez-nous. Dans Éphésiens chapitre 1, au verset 16, Paul dit ceci, je lis. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Regardez le verset 18. « Et qu'il illumine les yeux de l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Un peu pour vous dire, pour nous dire, frère, avec les yeux physiques, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, vous allez chercher à vivre ce qui est dit dans la parole, vous ne le verrez pas. Mais vous devez voir ces choses avec les yeux de votre cœur. Les yeux de notre cœur. Est-ce que, si vous pouvez réfléchir, tout ça, moi je dis toujours la Bible, il ne faut jamais la lire comme un journal, parce que, clairement comme ça, on n'a jamais vu des yeux sur le cœur. Non. Les médecins, les anatomistes nous diront non, non, les yeux ne se trouvent pas sur le cœur n'a pas des yeux. Mais ici on dit que Dieu a mis les yeux du cœur, parce que les yeux du cœur c'est la foi. La parole qui est dans notre cœur nous aide à voir des choses
que le monde ne voit pas.
Voilà. Voilà pourquoi Paul et Pierre pouvaient dire ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 8, regardez. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » C'est-à-dire, vous suivez un Jésus sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et vous vous réjouissez, mais vous ne l'avez pas vu comme l'ont vu Pierre, comme l'ont vu Jean. Mais moi, je n'ai pas vu Jésus. Hein? Nous datons d'hier. Eux, ils l'ont palpé, ils ont dormi avec lui physiquement.
Et le nombre de prières qu'on a fait, « Seigneur, s'il te plaît, visite-moi, j'aimerais te voir. » Il n'entend pas toujours. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas.
Ouais. Et nous la foi.
Nous le voyons simplement avec les yeux de la foi.
Voilà. Et ces yeux de la foi, c'est la parole qui est dans notre cœur, qui nous amène à persévérer, même quand on ne le voit pas, même pendant les circonstances. Hein? Regardez, on va retourner dans... On va lire la scène de Moïse, mais je voudrais lire cette scène d'abord de ces Hébreux, les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Dans Daniel chapitre 3, un texte connu. Ils étaient en face du roi. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue à cause de la loi d'Israël, de Dieu qu'ils connaissaient. Et le maître... Nebuchadnezzar, ce n'était pas un petit roi, c'était un grand roi, un roi puissant. Regardez ce qu'il leur dit, au verset 14. « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'avez pas, vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambusque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, regardez la menace, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est une question. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Ça a sûrement retenti comme un coup de tonnerre aux oreilles du roi.
Et ajoute, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, d'abord, je t'annonce, hein, mon roi, que le Dieu que je sers, il n'est pas comme tes dieux à toi.
Voilà.
Il peut me délivrer et Amen. Il va me délivrer.
Amen.
Mais dans le cas où, du haut du ciel, là, il décide, il dit non, c'est pas peine, je ne vais pas te servir.
En tout cas, il faut avoir la foi pour avoir cette assurance de ne même pas craindre le roi, Nebuchadnezzar. Je me rappelle que Saddam Hussein est mort, mais Saddam Hussein, de son vivant, il se frappait le torse et disait « Je suis le descendant de Nabucodonosor ». C'était un grand roi. Et puis, voilà, en disant même qu'il allait jeter les gens à la fournaise. Donc, il n'y avait pas de droit de l'homme devant lui. Pas du tout.
Qui que tu sois, tu dois obéir. Mais trois hommes disent non.
Notre Dieu.
Nous allons persévérer avec Dieu. Même dans la fournaise ardente. Excuse-moi. Nous allons persévérer avec Dieu. Même dans la fournaise ardente. Tu vois, j'ai dit persévérance et foi doivent aller ensemble.
Oui.
Je vais persévérer. Pourquoi si je n'ai pas de foi? Comment je vais persévérer? Comment est-ce que j'aurai la foi? Comment est-ce que je vais démontrer ma foi s'il n'y a pas de persévérance? En d'autres termes, foi et œuvre vont aussi ensemble. Est-ce que tu imagines? Ces hommes étaient déjà élevés en dignité, mais ils ont accepté de tout perdre et même d'aller mourir à cause du Dieu de la Bible. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont disposés à tout perdre parce qu'ils veulent suivre Jésus-Christ? Votre patron vous dit, écoutez, si vous ne devenez pas ma énième femme, je vous mets à la porte. Votre patron vous dit, écoutez, si vous ne faites pas de fausses factures, je vous mettrai à la porte. Et vous me dites, mes convictions religieuses m'empêchent de faire cela. Tu vas te retrouver à la porte. Ok, puisque vous décidez que je vais me retrouver à la porte, je m'en remets à mon Dieu. S'il décide que je pars, ok. Mais s'il ne décide pas, vous ne pouvez rien faire. Nous devons persévérer avec Dieu malgré les difficultés. Je suis convaincu que ces trois compagnons de Daniel, lorsque nous arriverons au ciel, auront certainement de grandes responsabilités.
Oui.
Quand Christ reviendra, il leur donnera certainement de grandes responsabilités, puisqu'ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour persévérer avec Dieu.
La foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, ce qui fait que nous soyons agréables à Dieu, c'est la foi. Parce qu'en fait, la foi met l'enfant de Dieu dans une situation telle que il croit même en voir. Il croit en Dieu, aux paroles de Dieu, même s'il n'a pas des preuves palpables. Alors là, ça marque Dieu. C'est un peu comme un mari qui se sent heureux lorsque sa femme croit en elle, même si ce mari-là n'a rien. Ça fait quelque chose, il dit, ah bon? Elle continue à me défendre. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 12 dit ceci. Je lis. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Il dit en tout cas, je sais, ils peuvent persévérer dans le mal, ils peuvent prospérer à cause de leur mal, mais le bonheur,
c'est pas pour eux.
Mais palpablement comme ça, on peut voir le contraire. Finalement, moi je crains Dieu, comme Asaph le disait. Je crains Dieu, mais je suis en train de souffrir. Mais eux, ils avancent.
Je crains Dieu, j'ai du mal même à payer mon loyer. Crains Dieu, j'ai du mal même à m'acheter une paire de chaussures. Mais lui, qui ne craint pas Dieu, il s'achète des paires de chaussures, des maisons, des voyages, et patati et patata. Mais le bonheur, c'est pas pour lui.
Il faut que des paroles telles que ceci soient ancrées en nous.
C'est parce que les gens, en fait, des fois, confondent bonheur et joie. Tu vois? Ils pensent que parce qu'on a plus d'argent, on a plus de titres, que forcément on va devenir heureux. Non! Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Pauvre ou riche, libre ou esclave, si on craint Dieu, le bonheur est pour nous. Voilà pourquoi il faut persévérer. Voilà pourquoi il faut continuer à craindre Dieu, malgré les obstacles, malgré les sollicitudes, malgré les séductions. Tu sais, il y a des hommes, il y a de ces hommes et de ces femmes qui craignent Dieu quand ils sont dans le manque.
Oui.
Quand ils n'ont pas, il n'y a pas de problème, ils vont craindre Dieu. Mais dès qu'ils commencent à avoir des biens matériels, des élévations, des titres, malheureusement, ils ne font pas attention, ils tombent dans la séduction. Il y a deux extrémités, il y a deux choses qui peuvent nous faire tomber. Soit nous faire tomber dans le péché, soit c'est parce qu'on manque, alors on veut et on vole, on tue, on vit dans le péché pour un homme qui est marié, qui a un travail, sera très facilement attiré à tomber dans l'adultère. Parce que justement, il a. Mais un homme marié, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas beaucoup de moyens, entre guillemets, aura du mal à tomber dans l'adultère. Bien qu'il y en a aussi qui tombent aussi. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a certains qui ne persévèrent plus avec Dieu parce que ils n'ont pas, alors ils veulent avoir et ils commettent des péchés. D'autres parce qu'ils ont et ils commencent à faire des choses qui ne sont plus correctes. Dans l'un ou l'autre, il faut revenir à Christ et continuer son chemin. Il ne faut pas qu'on tombe dans la séduction, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la convoitise.
Les circonstances sont en train d'arrêter la course.
Voilà, les circonstances sont en train d'arrêter la course.
Mon frère, je ne sais pas s'il y a des circonstances qui ont arrêté ta course vers le ciel, vers l'éternité, ont arrêté ta confiance en la parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Persévérons, parce que nous parlons de la persévérance. Et ceux qui ont persévéré, tous ces gens, tous ces héros de la Bible qui ont persévéré dans la parole de Dieu, c'est pas qu'ils ont directement vu l'accomplissement. Automatiquement, ils ont vu des situations contraires qui venaient combattre leur foi. Mais ils ont eu confiance en ce que Dieu avait dit, même s'ils n'avaient pas vu. Regardez, par exemple, Josué et Caleb. C'était les deux de cette génération qui étaient sortis d'Égypte. De cette génération qui avait vu comment Dieu avait frappé les Israélites, nombre 14. De cette génération qui avait comment les eaux avaient englouti les Égyptiens derrière eux. Parce que la Bible dit qu'ils ont vu les corps qui gisaient d'un côté comme de l'autre, du bord de la mer. Parce que la mer avait englouti les ennemis d'Israël. Et ce sont les deux qui sont entrés, curieusement, les deux. Et la Bible dit ceci, je lis. Au verset 6, verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, parmi eux, parce qu'ils étaient 12, et parmi les 12 qui avaient exploré, il y avait 10 qui disaient que ils ne pouvaient pas entrer parce qu'il y avait des géants à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Moïse les avait emmenés là-bas pour les détruire. Et parmi eux, il y avait deux qui n'avaient pas fait le même discours, Josué et Caleb. Voilà ce qu'ils disent. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Au verset 7, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. Donc, en fait, des gens qui savent, si Dieu nous est favorable, il va nous donner. Regardez comment ils vont évoluer dans la réflexion. C'est un pays où coule le lait et le miel. Regardez le verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Regardez, si on compare ce verset avec ce qu'ils ont dit avant, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable. Mais après, ils disent, non, ils nous serviront de pâture. En fait, ils évoluent dans leur réflexion. Ils montrent clairement que non, ils sont là juste pour manifester la gloire de Dieu. Ça me fait penser à ce que Jésus-Christ a dit, à la question qu'on lui a posée. Est-ce que cet homme ici, il est né
aveugle, c'est le péché les péchés de ses parents ou bien ses propres péchés à lui?
C'est ça, dit.
Jésus dit non.
C'est juste pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a des circonstances qui nous arrivent juste pour que les gens disent
en fait,
c'est l'Éternel qui
est
Dieu.
En fait, moi j'ai toujours compris cette histoire de cette manière. Ce n'est pas Jésus qui l'a créé aveugle, mais puisqu'il est venu aveugle, Dieu va donner l'opportunité aux hommes de voir sa gloire.
Voilà.
En fait, les difficultés que nous sommes en train de rencontrer sont l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire.
Exactement.
Donc, nous devons aller dans notre vie de tous les jours et dire, le problème qui se présente devant moi, c'est l'occasion que Dieu me donne de se manifester.
Oui.
Et non, oh non, c'est terminé, voilà, les Égyptiens vont nous détruire. Non, c'est l'occasion pour Dieu de faire un miracle.
Voilà. Ta vie, mon frère, est différente de celui de ton ami, de ton voisin, de tes connaissances. Parce que des fois, on a tendance à comparer nos vies aux autres. On a eu les mêmes diplômes, mais lui, il a eu facilement le boulot. Moi, j'ai pas eu le boulot. Finalement, c'est quoi? Bon, je me suis marié. Lui, il a déjà des enfants. Moi, j'ai pas des enfants. Comment expliquer ça?
Mais lui, il est en train d'évoluer mieux que moi. Non, c'est l'occasion de dire, Seigneur, manifeste-toi.
Ouais.
Tu sais, il y a de ces gens. Ils ont fini l'université. Ils ont du mal à trouver du travail. Et puis, à un moment, ils ont créé des entreprises.
Oui.
Les difficultés que nous rencontrons sont les opportunités que Dieu nous donne pour qu'ils se manifestent.
Amen.
Non, on ne doit pas voir dans ces difficultés, dans les tempêtes, oh, l'écrasement, l'humiliation, la honte. Oh non, moi, je crois que je suis venu, comme disent les gens dans notre ville, je suis venu accompagner d'autres personnes.
Non! C'est faux.
Non! Les difficultés, les problèmes, les persécutions, les réalités que nous rencontrons sont une occasion pour Dieu de se faire connaître. Voilà pourquoi je disais au début, notre vie qui a commencé par la foi doit se cheminer par la foi et elle doit se terminer par la foi.
Amen. Ce sont des exemples vrais. Hein? Et même quand on lit la Bible, tous ceux qui ont été testés, ces héros, ils n'ont pas connu les mêmes situations. Abraham, son épreuve, devait attendre 25 ans, Isaac. Mais Job, il avait déjà des enfants, mais il a perdu les 7 au même jour. Tu vois, il y a Jérémie qui ne s'est pas marié et qui s'est plaigné jeune. C'est comme s'il était venu pour dire la vérité et être contredit, mis en prison jeune. Donc, en fait, on n'a pas toujours les mêmes situations. Mais dans toutes ces situations, Dieu veut les utiliser pour sauver les autres. Dieu veut les utiliser pour apporter le salut aux autres. En fait, nous, enfants de Dieu, nous sommes entre ses mains comme un matériel didactique. Pour sauver des milliers de gens. C'est vrai que ça fait mal parce que c'est nous qui vivons ça. Mettons-nous à la place de Job. 7 corps devant ses yeux. 7. Il devait pleurer qui? Il devait regarder qui?
Et comme si ça ne suffisait pas, il a sa femme qui lui dit, mais attends, tu vas continuer à vivre comme ça. Maudit Dieu et meurt.
Voilà.
En d'autres termes, comme ça, moi, je vais refaire ma vie.
Voilà.
Et comme si ça ne suffisait pas, tu as 3 compagnons qui viennent lui dire, non, c'est certainement parce que tu as péché.
Voilà. Or, tout ça, des circonstances qui viennent pour décourager. On n'a pas les mêmes circonstances, mais on doit avoir les yeux fixés sur la parole. Persévère, mon frère, aie confiance en la parole malgré ce que tu vois. Aie confiance en la parole malgré les situations que tu traverses. Aie confiance en la parole, ne te compare pas aux autres, tu es spécial. Tu es spécial par rapport aux situations que tu traverses, mais aussi, je veux te rappeler une chose, il n'y a rien de nouveau sous les yeux. La Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, ne te dis pas, en tout cas, moi, je suis unique. Non. Les mots même que tu fais ressortir à cause des temps que tu traverses, avant toi, il y avait aussi quelqu'un qui a aussi appliqué les mêmes mots. Et il avait trouvé solution. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Parce que la Bible nous présente les situations passées.
Et c'est comme ça que je bénis Dieu. Parce que tu vois, la Bible, en dehors du fait que ça nous fait connaître Dieu, ça a été écrit par des hommes.
Voilà.
Et ça raconte des histoires d'hommes qui ont marché avec Dieu.
Mm-hmm.
Peu importe les circonstances qu'ils ont vécues. Mm-hmm. Tu vois, David, tu as Abraham, mm-hmm. tu as Daniel. Des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Mais le livre des Hébreux parle d'une si grande nuée de témoins.
Amen.
De ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés. Mm-hmm. Tu imagines, tu arrives devant Jésus-Christ. Jésus-Christ.